Nous allons clôturer cette année sur le PPP2, le deuxième PPP. Alors, pour pouvoir être libre l'année prochaine, pour faire le PPP3. Le PPP1, que nous avons fait l'année dernière, concerne tout le point de vue de l'amour. PPP, ça veut dire nous faisons une perspective pour perspective en personnalisation profonde, n'est-ce pas PPP? Alors, nous sommes une personne, mais on vit un petit peu à la périphérie. Le visible, l'apparent, etc. Ce qu'on ressent. Alors, on voudrait quand même arriver à trouver les portes d'entrée pour vivre pas seulement le périphérique, mais pour vivre toute la personne, toutes les dimensions de la personne. L'apparent, le spirituel, la sagesse, hein, le divin. Et l'éternel qui est en nous. La grande spirale de la personne, n'est-ce pas? Et il faut qu'on vive tout de plus en plus. Aujourd'hui, plus on est périphérique, plus on ratisse large, hein, n'est-ce pas? Et au fur et à mesure qu'on avance, on se personnalise vers l'éternité et on se rassemble en Dieu. Pour faire une espèce de ressort vers le bon Dieu. C'est ça la perspective de personnalisation. Il y a trois grandes directions. Nous avons vu donc, il y a un an, l'aspect de toute la dimension affective. Ah, j'aime, j'ai envie d'aimer, j'arrive pas à aimer, je ne suis pas aimé, etc. Est-ce que j'aime vraiment ce que je ressens pas, etc. Donc c'est la dimension de la présence de Dieu au centre de notre âme, de l'Esprit Saint qui est en nous. Nous avons vu donc toutes ces blessures de l'affectivité. Et on a essayé de regarder justement le processus de l'enfermement. Parce que ce qui se passe, c'est que nous sommes appelés à rentrer dans un mouvement de personnalisation, c'est-à-dire d'amour, qui nous ramène finalement à vivre corps, âme, esprit et surnaturellement, ce qui se vit dans la très sainte Trinité, qui ne nous quitte pas, est au centre de nous. Dieu, comme Voltaire, n'est pas très loin là-bas, là-bas, là-bas. Il est au fond de nous. Alors, on a vu toutes ces perspectives. Au lieu que de plus en plus on s'approche de l'Esprit Saint, on se rend compte au contraire qu'on s'enferme. Notre cœur s'endurcit. Notre cœur rentre, s'isole. Et on devient extrêmement fragile, vulnérable, et on n'arrive plus du tout à aimer. Voilà les trois cercles de l'enfermement qui font qu'au lieu de la fameuse spirale d'amour, eh bien, on se trouve malheureusement confronté à l'échec, à la trahison dans l'ordre de l'amour, et à ce fameux 666 du cœur. Mon cœur se replie sur lui-même par l'endurcissement, mon cœur se replie sur lui-même par l'isolement. C'était ce tableau que nous avons vu. Pas ce tableau qu'on avait vu donc il y a 2 ans. Tableau, mais que vous n'avez pas ici sous la main en face. Si vous êtes intéressé de regarder à nouveau, vous avez des cassettes. Extraordinairement bien enregistrées. Même si la voix est désagréable. Cette année, nous faisons le deuxième aspect. La deuxième dimension qui est en nous, c'est l'aspect de la conscience. L'intelligence. Mais malheureusement, nous ne comprenons la chose que dans la mesure où nous les ressentons. C'est l'imagination qui, à cause du péché, à cause des blessures, à cause de la brisure, finalement l'imagination prend une place considérable, au lieu que ce soit l'intelligence. Alors c'est cette année ça. On a fait quelque chose, on comprend que ce qu'on a fait c'est mal, mais on ne veut pas le voir. Alors du coup, on s'enferme dans un sentiment de honte. Je ne veux pas le voir, j'ai honte. C'est cette honte qui est en nous et qui m'empêche d'être intelligent, qui m'empêche d'être spirituel, qui m'empêche d'être contemplatif, qui fait que je n'ai pas du tout envie de chercher la vérité, qui fait que je n'ai pas du tout envie, qui fait que le mensonge, pour moi, c'est mieux, qui fait que je n'ai pas du tout envie de voir Dieu. Ou alors, quand j'essaie de voir Dieu, je ne le vois pas. Mon cœur est impur. Bienheureux les cœurs purs, révérend Dieu. Donc c'est ce que nous faisons cette année, de regarder la fameuse différence entre le sentiment de culpabilité, et nous avons vu toute l'année comment fonctionne le sentiment de culpabilité dans la zone de l'âme. dans la zone de l'âme liée au corps, dans le point de vue psychologique, si on n'a même pas la maturité humaine suffisante pour être un petit peu, avoir cette intelligence du bon sens, si on a perdu le bon sens, c'est-à-dire le point de vue de l'intelligence humaine normale, alors à ce moment-là, les péchés, les fautes, les échecs dans l'ordre de l'amour, ma mère m'a pas aimé, ma mère m'a donné un grand coup de pied dans les fesses quand je suis né en disant qu'est-ce que c'est que ce type. Et du coup, j'ai honte. Ma mère avait honte de moi et du coup, j'ai toujours honte. Le sentiment de culpabilité, j'allais dire bien souvent, je ne suis pas responsable. Mais je suis coupable. Je suis vraiment ce sentiment, j'ai vraiment ce sentiment de culpabilité. La culpabilité, c'est moi qui la porte. Souvent, je ne suis pas responsable. C'est plutôt le père, la mère. Parce que la conscience de culpabilité... Ah bon. Et puis, nous avons vu les derniers mois la différence entre le sentiment de culpabilité et ses mécanismes et la conscience de culpabilité. Là, on commence peut-être à essayer de regarder en face et on regarde là où on est responsable. La conscience de culpabilité apparaît, elle a un mécanisme complètement différent que le mécanisme psychologique du sentiment de culpabilité. C'est dans la conscience qu'on en a. J'ai conscience que j'ai honte. Par exemple, je me regarde moi-même, j'ai honte de moi. Moche. Moche. Là, je me regarde dans la glace. Puis, tu restes là comme ça. Surtout après que tu as fait un truc un peu... Oh. Un truc scabreux, non. Non, madame Thierry, non. Mais Mais enfin, disons quelque chose n'est pas bien. Tu te regardes dans la glace, t'as un peu honte. Alors, tu te regardes, et puis tu te dis, espèce d'idiot, crétin, pauvre con, etc. Vous voyez ? Tu t'injuries. C'est les injures. Ah, ça, c'est le sentiment de culpabilité. Je suis un pauvre type. Alors, je suis une merveille de Dieu. Hein. C'est pour ça que je me regarde devant la glace. Parce que je me regarde vraiment l'aspect complètement périphérique. La honte me projette hors de moi-même. Tandis que l'intelligence et la vérité me projettent à l'intérieur de moi-même. À ce moment-là, c'est une merveille. Et c'est pour ça que cette année, nous avons regardé donc, le passage du sentiment de culpabilité à la maturation humaine de sentiment de culpabilité. Il faut accepter de regarder sa faute ou ses échecs ou les trahisons qu'on a subies en face. Alors à ce moment-là, on accepte de traverser l'angoisse. Et du coup, on rentre dans l'aveu. Si j'accepte de regarder en face, j'avoue et je dis ce que j'ai fait. Et c'est la voie d'accès pour retrouver mon identité et de me connaître moi-même en toute vérité. Et du coup, de pouvoir rencontrer le Fils de Dieu qui est en moi, qui m'a jamais quitté, mon Rédempteur. Ça, c'est sûr. Dieu, qui est ma lumière. Et du coup, je retrouve ma liberté. Et je peux m'offrir au prochain, à moi-même et aux autres, en pleine lumière, malgré ce que je suis extérieurement, malgré mon passé, malgré ce qu'on a dit que j'étais, etc. Et j'accepte du coup de retraverser l'angoisse, parce que du coup, l'angoisse me permet d'offrir plus profondément ce que je suis. Donc c'est ce que nous avons vu, je ne reviens pas dessus aujourd'hui, je voudrais regarder avec vous ce qu'on pourrait appeler, je ne sais pas moi, un petit... sauf si vous avez des questions, hein. Si vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez pas, je veux dire, hein, vous m'arrêtez. On pourrait regarder justement une espèce de... un petit essai. De solution, pas solution, c'est pas le mot, hein, mais de voie d'accès pour guérir, pour faire que le sentiment de culpabilité et la conscience de culpabilité ne me fassent pas dériver. Le sentiment de culpabilité peut me faire dériver dans des névroses, dans des habitudes, dans des dérives. Exemple d'habitude, la boulimie. Exemple de névrose. Enfin, on l'a vu, je ne reviens pas dessus. La conscience de culpabilité, encore pire, peut me faire tomber dans des folies, des psychoses, des délires. ou dans des dépendances complètement aliénantes, des relations fusionnelles. Donc pour éviter que le sentiment de culpabilité, la conscience de culpabilité, on ne pourra jamais s'en débarrasser. Mais ce qu'on peut faire par contre, c'est se retrouver tout le temps dans la dimension positive du sentiment de culpabilité ou de la conscience de culpabilité. C'est ça, donc un petit peu le but d'ailleurs de notre année sur le PPP 2. Alors, comment faire maintenant une fois qu'on a vu les deux? Je crois qu'effectivement, bon, c'est quand même assez facile de comprendre que si nous voulons devenir transparents malgré cette espèce de honte que nous avons nous-mêmes, qui est purement psychologique, hein, ça n'a aucune espèce de honte, il ne faut même pas s'y arrêter, presque, j'allais dire. Hein. Si nous voulons donc aller le plus loin possible dans la lumière, la nôtre, dans l'intelligence, dans la sécurité intérieure, et du coup cette liberté pour regarder et son péché et mon Rédempteur et Dieu ma lumière, et ce qui unit le monde entier dans cette lumière, alors à ce moment-là, vous voyez bien que la grande chose, c'est de vivre du pardon. C'est de demander pardon à Dieu. Et ne demandez pas pardon en général, pardon pour des choses précises, concrètes. Très difficile pour un enfant, quand il fait une confession, par exemple, de dire, « Ah oui, dis-moi, est-ce que tu as menti ?»« Oh oui !» J'ai menti. Cet enfant de 6-7 ans. « Oh oui, j'ai menti. » Attends, alors dis-moi un exemple. Une fois où tu as menti, tu te rappelles pas? Non. Mais tu me dis que tu as menti. Beaucoup de fois. Ah oui. Tu te rappelles jamais d'une seule fois? Non. Donc tu n'as pas menti. Parce que si tu avais menti, tu t'en rappellerais. C'est uniquement le sentiment de culpabilité. C'est trompeur, ça, le sentiment de culpabilité. On croit qu'on a menti alors qu'on n'a pas menti. C'est uniquement parce que ma maman m'a dit « Tu as menti, menteuse !» Alors, j'ai menti à ça, oui. Mais j'ai jamais menti, en fait. C'est beau. Un enfant a du mal à concrétiser. Alors, j'ai fait une faute précise, je donne les circonstances aggravantes, n'est-ce pas ? Faute que j'ai fait. Ou alors, l'adulte, c'est la même chose que l'adulte. Parce que lui, il dit, bon, j'ai fait ça, mais aussi, c'est parce que, et si, et là, nina, nana, wa. Bon. Alors, là, très, très mauvais, n'est-ce pas? Aussi, c'est pas parce que, oui, j'étais obligé, enfin, et si, et là. Bon. Non. Au contraire, quand on donne son péché tout simplement, de manière toute crue, voilà, je suis vicieux, c'était vicieux, c'est vrai, c'est igné. Et voilà, et vous donnez les circonstances aggravantes, en plus, c'est vrai, j'ai conscience que le Seigneur m'a donné évidemment beaucoup plus de grâce qu'à d'autres, et etc. Circonstances aggravantes. Voilà, vous voyez bien. Le curé ou le moine, il se dit, avant de se confesser, il se dit, je vais d'abord me mettre en civil, et puis je vais dans un confessionnal. Et puis je ne vais surtout pas dire que je suis évêque, vous comprenez ? Je vais me plaquer, si l'évêque arrive au confessionnal avec sa crosse, sa mitre, en disant « je suis évêque, voilà mon péché ». Non, il enlève sa crosse, il enlève sa mitre, hein, il enlève les ornements sacerdotaux. Il va d'abord faire un tour chez les Romanichettes, là, pendant une semaine, et puis il arrive, quoi. C'est pas ? Eh oui, non, on explique les circonstances aggravantes. Vous voyez ? D'une manière crue, on demande pardon. Évidemment, le sacrement de pénitence est quelque chose, une chance que nous avons absolument considérable. Vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est vraiment la chance que nous avons par rapport à tous nos petits frères. Une chance. C'est vraiment extraordinaire. Voilà. Et oui, parce que vous comprenez que la racine de tout ça, la racine de notre péché, au fond, c'est le refus de recevoir. Parce qu'à travers la demande, je donne mon péché, pour recevoir le pardon, le don. L'homme est un don. Dieu m'a donné à moi-même et m'a constitué comme don. Je suis à moi-même le don de Dieu. Dieu m'a donné, je suis don. Et le sentiment de culpabilité, la conscience de culpabilité, fait que je ne veux plus recevoir. Alors, à travers le pardon, l'aveu, je reçois à nouveau, je me reçois à nouveau dans le don de Dieu, je reçois le pardon. Vous voyez bien, j'ai un petit peu ce refus de recevoir qui est la racine du péché, qui est la racine de la culpa. La culpabilité, la faute. Alors le refus de recevoir va faire que du coup, eh ben, je vais vouloir être don pour moi-même. C'est ça le problème du sentiment de culpabilité, la conscience de culpabilité, par moi-même. Je vais être par moi-même origine de ma propre vie. Et donc, je vais aimer par mes propres forces. Si je refuse de recevoir le don de l'amour, le don de l'autre, le don de Dieu, le don de la lumière, et me recevoir comme don, je vais être moi-même source de ce que je fais, source de ce que je vis. Et puis évidemment, du coup, je vois que, je dis comme ça, alors je me fais l'autruche. Et puis donc, je vois que je n'y arrive pas. Alors, cinquièmement, je désespère. Puisque je n'y arrive pas, je désespère. Et puisque je désespère, quelqu'un arrive en disant « Ah, j'ai envie de te donner tout mon cœur, c'est vraiment ce que j'aime. » Alors, je dis non. Puisque je désespère, quelqu'un qui désespère ne veut plus se laisser aimer. Je n'en demande plus pardon à Dieu. Au bout d'un certain temps, on ne veut plus l'aimer, aider et se laisser aimer. On ne veut plus recevoir même le don d'un autre, d'un proche. On ne veut plus se laisser aimer. N'est-ce pas? Et quand je ne veux plus recevoir l'autre, c'est que je ne veux plus me recevoir moi-même. Vous voyez ce sentiment de honte? Alors je me voile de plus en plus à moi-même ce que je suis. Et je finis par me cacher ce que je suis en mettant ma faute sur les autres. Voilà la septième étape donc de ce mouvement, j'allais dire, de sortie de soi du point de vue de la lumière. Je rentre dans les ténèbres et je dis que ce sont les autres qui ne m'aiment pas. Et finalement, je rentre dans cette attitude où je dis, finalement, moi, j'aime, je donne ce que les autres ne m'ont pas donné. Vous voyez, on a des cousins, frères, sœurs, etc., des gens très très proches qui souvent disent ça. Hein? Ces gens qui sont dans le sentiment de culpabilité très 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 fort. Ils disent, au fond, c'est vrai, moi j'aime, moi je vis l'amour. Et ce que je n'ai pas reçu, je le vis dans des familles. Hein? C'est vrai. Vous connaissez ça, je pense, hein, vous reconnaissez. Voilà, vous voyez, je suis source, moi, de dons que je n'ai pas reçus. Voilà la définition même de l'orgueil. Comment ça? Qu'est-ce que c'est? Tu n'as pas reçu. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce que tu as reçu. Qu'est-ce que tu as que tu n'es pas reçu? Et donc, non, moi je donne, les autres ne me donnent rien du tout. C'est moi qui suis sur dedans. Ça, c'est l'orgueil le plus absolu. C'est la première passion mère qui me met dans les ténèbres. Vous voyez? Et la deuxième passion, c'est le fait que du coup, je garde ce que j'ai, comprenez? Ce que j'ai, puisque c'est si précieux, que ce qu'ont les autres, je ne peux pas le recevoir. Et en plus, ils ne me le donnent pas. Ce que j'ai, donc c'est ça qui doit être préservé. Et donc je garde ce que j'ai. Je me capte soi-même ce que j'ai. Voilà la concupiscence qui apparaît. L'attitude captative pour être soi-disant source d'amour pour les autres, alors que les autres ne sont pas source d'amour pour moi. C'est la concupiscence. Voilà la deuxième passion mère. Donc nous avons vu un petit peu tout ça. Et il faut comprendre que ce refus de recevoir correspond donc à l'orgueil, à la convoitise. L'orgueil, c'est tout vient de moi, la convoitise, tout vient à moi. Voilà les deux grandes passions qui sont, j'allais dire, comme le corset, la cause de tout mon sentiment de culpabilité. Bon, de ma conscience de culpabilité, si on veut. Alors que, en fait, Il y a trois choses qu'il faut dire. C'est que dès que je vais vouloir avouer, demander pardon, vouloir rentrer dans la miséricorde, dans la lumière, le mystère de la confession est un sacrement de la lumière. Vous vous rappelez toutes les retraites que nous avons faites sur le mystère de la confession. Et c'est vraiment le mystère de la confession. Justement, il paraît qu'il y a beaucoup de ceux qui ne l'ont pas écouté. Il faut écouter ça, le mystère de la confession. Vous avez une série de cassettes absolument merveilleuses que Charlotte a fait. Ce mystère de la confession, pour comprendre que le sacrement de la confession, le mystère, pardon, de la confession, c'est vraiment le mystère de la lumière. C'est pour être guéri du côté de cette honte qu'on a, cet orgueil qui fait que tout vient de moi, cette convoitise qui fait que tout vient à moi. En fait, tout vient de Dieu. Vous comprenez ? Mystère de la confession. Tout vient de Dieu. Mystère du pardon. Je reçois le pardon. Tout vient de Dieu. Et tout venant de Dieu, je peux tout donner de ce qu'il me donne. C'est ça le pardon catholique ou le sacrement. Je reçois tout de Dieu et du coup, effectivement, dans le sacrement, ce pardon que Dieu me donne, je le donne à tous ceux qui ont fait les péchés analogues aux miens sur la terre. C'est ça pour ça que c'est catholique. Je deviens source de miséricorde. Vous voyez ? Je ne viens pas à la confession pour moi tout seul. Ça, c'est la convoitise. Je reçois le pardon pour moi. Vous voyez bien ? Tandis que je reçois le pardon et du coup, tout le monde est enveloppé par la miséricorde de Dieu. Tous ceux qui ont fait des fautes de ce genre. Parce que j'ai demandé pardon et du coup, le sacrement fait que Jésus, à travers moi, ma plaie, ma culpabilité, là, je suis une plaie vivante. Ça me blesse d'avoir fait des fautes comme ça. Et cette blessure, par la transformation sacramentelle, est transformée en la plaie vivante de Jésus. Il est une plaie vivante. Tous les péchés du monde, il est devant le Père, il ressent ce que ressent tous les pécheurs, il demande pardon pour tous les péchés du monde. Voilà ce que fait le sacrement. Ce n'est pas par moi. Je reçois donc le pardon, et en même temps, par le Christ présent dans mon péché, tous les péchés sont pardonnés. Vous voyez bien qu'au fond, l'orgueil et la convoitise sont comme une caricature du mystère de la confession. Oui, puisque l'orgueil, tu as l'air de... Pourquoi c'est une caricature, hein? Pourquoi c'est une caricature? Donc, je reprends. C'est une caricature parce que dans l'orgueil, tout vient de moi. Et dans la convoitise, de la culpabilité, tout est pour moi. Ça, c'est la caricature. Tu vas au sacrement de confession pour recevoir le pardon pour tes péchés. C'est une manière, il y a une manière égoïste et orgueilleuse de vivre du sacrement, pharisienne. Hein? Je vais au pardon des péchés dans le sacrement pour moi, pour mes péchés. Pour être lavé, moi, pour être... Ah, ça ira mieux après. Hein? Tu comprends? Voilà. Et en même temps, il y a quelque chose de vrai. Il y a quelque chose de vrai. C'est évident. Et on peut dire aussi, ah, dis donc, comme je suis allé là, comme j'ai vécu du sacrement, eh ben, je peux faire ce que j'ai reçu, ce pardon que j'ai reçu, je peux l'envoyer sur toute la terre, sur tous les pécheurs. Tout vient de moi. C'est pas comme ça. Il y a quelque chose de vrai, mais ce n'est pas comme ça. Tout vient du Christ dans le sacrement. Tout ne vient pas de moi. Tout vient du Christ. Moi, j'apporte mes péchés. Et je suis blessé. Et je demande justement les circonstances les plus crues. La blessure toute nue. À poil. Voilà ce que j'apporte. Voilà ce que j'apporte. Et Jésus vient dans ce sacrement de la lumière. Il met une lumière encore plus crue sur mon péché, mais il transforme sacramentellement cette demande de pardon que je fais dans la sienne. En ce moment, il demande pardon au Père pour tous les péchés du monde. Mais c'est lui qui, à travers le prêtre et moi-même, cette relation entre le prêtre et moi-même, c'est Jésus qui donne tout au monde, c'est pas moi. C'est un sacrement. Au fond, ce qui vient de moi et que je peux donner, eh ben, c'est mon péché. Voilà la prise de conscience. C'est la prise de conscience. Alors du coup, je peux rentrer dans un état de dépendance avec Dieu. Je suis son fils. Et Dieu est autre que moi et il m'attire. Et je suis là. À ce moment-là, je peux me relever. Et c'est ça la véritable libération. Donc bien retenir ça, les deux racines. Et Conan, ce que j'aurais voulu faire aujourd'hui avec vous, parce qu'on l'avait déjà vu plus ou moins ça, donc c'est regarder le traitement. Alors, comment faire pour sortir de la mauvaise culpabilité, les aspects négatifs qui sont dans les cases grises, n'est-ce pas? Comment faire pour sortir? Et comment entrer dans la vraie conscience de culpabilité? Comment rentrer dans l'aspect positif aussi du sentiment de culpabilité. Donc commençons par les étapes de la thérapie du sentiment de culpabilité. La thérapie du sentiment de culpabilité, c'est psychologique, vous sentez bien. Hein? Alors, voilà les étapes, notez-les, je vous les énumère, et puis vous essayerez de... D'abord, première étape, pour que vous n'ayez plus honte de vous, ou du moins que cette honte serve à quelque chose. Première étape, prise de conscience de la blessure. Prenez conscience de l'endroit où vous êtes blessé. De manière à déculpabiliser la personne. Il faut que votre personne soit déculpabilisée et que la blessure soit mise à sa place. La blessure ne frappe au sentiment de culpabilité que la dimension sensible. Prise de conscience. Vous prenez par exemple prise de conscience d'un manque d'amour dans votre cœur, dans l'enfance, dans votre enfance. Et vous prenez conscience que dans ce moment où vous vous rappelez qu'il y a eu un manque d'amour évident en votre enfance, vous vous rappelez d'un événement particulier, eh bien, vous essayez de voir que vos réactions à travers ça, ce manque d'amour de votre enfance qui s'est réalisé à ce moment-là, vous allez vous rendre compte, vu les circonstances de cet événement-là, que quand vous aviez 4 ans, quand vous aviez je ne sais pas quoi, vous allez vous rendre compte à ce moment-là que vos réactions actuelles ne sont pas complètement et entièrement de votre faute. Donc vous prenez conscience d'une part d'innocence en vous. Vous n'êtes pas entièrement assimilé à la faute. C'est une menteuse. Et ça l'a suivi environ 35 ans. Elle était convaincue que tout... Et elle s'était du coup enfermée dans une attitude de mensonge. Mais, donc elle voulait prendre conscience, elle a pris conscience il y a à peu près 3 ou 4 ans, que c'était ce moment où sa mère lui avait dit ça, qu'il avait enfermé dans une attitude de mensonge, et elle ne pouvait pas faire autrement que de mentir tout le temps. C'était pour correspondre à la vision de sa mère, qui avait confondu, au fond, un acte, et la personne. Elle n'avait pas dit, ici ce que tu dis c'est pas vrai. Pourquoi tu viens de faire un mensonge? Pourquoi? C'était pour éviter de te faire taper. Elle n'a pas dit ça. Elle a dit, tu es menteuse. Tu es tout entière menteuse. Tu es un mensonge. Mais non, tu n'es pas un mensonge, tu es à l'image de Dieu. Et l'image de Dieu, c'est pas un mensonge. Donc, il ne faut jamais confondre l'acte et la personne. Vous voyez bien? Donc, vous prenez conscience d'une part d'innocence grâce à la prise de conscience sur votre premier péché qui vous donne une si grande honte. Vous prenez conscience d'une part d'innocence. En vous, il y a une part d'innocence qui n'a jamais été souillée et qui est divine, qui est immaculée. Immaculée. Jamais, à aucun moment, cette sainteté n'a disparu. Jamais. Dans votre corps, dans votre chair. Quelles que soient les choses que vous ayez faites, il y a une part d'innocence, cette innocence divine, si vous voulez, et humaine à la fois. Ben, elle est éclaboussée de l'extérieur. Bon. Alors, troisième moment, après la prise de conscience, vous allez pouvoir dire votre souffrance, votre douleur à quelqu'un. Et vous allez donc être entendu dans ce cri. Alors, voyez bien. Et il faut que ce cri apparaissent à un moment donné, même il ne faut pas qu'il dure 8 siècles, évidemment. Mais enfin, il faut que vous puissiez crier que c'est injuste, au fond. Il faut que vous puissiez être entendu dans ce cri. C'est injuste qui m'arrive, au fond. Vous voyez ? Et puis, accepter de se voir entendre, de dire, mais oui, c'est normal que tu cries. Allez, pleure, va, ça te fera du bien. Voyez ? Puisque ici, ce que nous essayons de faire, c'est comment aider notre prochain. Voyez ? Pour soi-même, d'abord, bien sûr. Bah, accepter d'être un petit peu, de temps en temps, accompagné. Voyez bien ? Si quelqu'un... Bon, on sent que c'est bien cette personne-là. Et qui m'accompagnera, on le sent ça, alors on le choisit. Vous voyez, il faut demander ce sujet. Vous voyez, un ami. Et puis après soi-même, on fait pareil, vous voyez. Bon, tout est dans l'aveu. Quelqu'un qui n'avoue jamais, c'est quelqu'un qui ne vit plus. Alors, Jésus ne peut pas venir. Alors, Jésus va venir, Jésus ne peut pas venir profondément en lui. Alors du coup, Jésus va venir extérieurement en lui, de manière sensible. Il va ébranler le ciel et la terre. Seulement si vous avouez. D'accord ? Prenez exemple sur la vice-présidente. Donc le fait de se laisser comprendre et consoler va petit à petit me montrer que je ne suis pas si honteux que ça. Eh oui, à travers tes blessures. Alors, relisez ce passage que je vous avais lu une fois d'Ézéchiel, hein, au chapitre 16. Extraordinaire. La splendeur de Dieu en nous se révèle à travers. Tu étais gisant, à terre, meurtri, etc. Et puis, en fait, et Dieu, Ézéchiel, chapitre 16. Notez-le parce qu'il faut le lire souvent, ce passage. Quatrième étape. Je ne suis pas complètement innocent. Certes, il y a l'innocence, cette splendeur, c'est extraordinaire, mais je ne suis pas tout à fait complètement innocent. Il n'y a pas que ça. Je ne suis pas la victime innocente et sans tâche. Et donc, je vais prendre conscience que certes, il y a quelque chose qui est injuste, mais il faut que je prenne conscience aussi. Vous voyez, c'est tout ce qu'il y a dans la prise de conscience, hein, dans la petite case qui est ici. Sentiment de culpabilité, dimension positive, prise de conscience. C'est vraiment le numéro 1, la prise de conscience. Eh bien, je vais prendre conscience de mon agressivité. Je vais prendre conscience que j'ai réagi mal. Certes, il y avait des choses injustes, mais deuxièmement, ma réaction... Bah, elle a été, je me suis complètement enfermé, endurci, isolé, fragilisé, de plus en plus. J'ai réagi comme ça. Et je fais la vérité sur ce que j'ai fait, j'ai provoqué. Et du coup, c'est bien moi qui, par la suite, ai provoqué des attitudes de rejet des autres. J'ai renforcé l'attitude du non-amour vis-à-vis de moi. J'ai été moi-même insupportable. Et patati, et patata, et parler, et ci, et là. N'est-ce pas ? Remplis le vide par beaucoup de paroles. Et du coup, ça énerve mon mari. Toujours à piailler, c'est pas possible, mais je vous en prie, ma chère épouse, fermez-la. C'est insupportable. Bon. Hein? Voyez bien, c'est moi-même. J'ai provoqué, du coup, des mécanismes de fuite et de défense. Et je suis devenu complètement irresponsable, n'est-ce pas ? Quelque part. Voilà. Et du coup, je demande ici dans cette étape cette grâce de voir cette contre-réaction. Et là où je suis, bien sûr au départ, ce n'est pas de ma faute, mais après ça va devenir de ma faute. Après, oui. Et je demande au Seigneur la grâce de voir cette espèce d'après. Cinquième étape, du coup, c'est là-dessus que je demande pardon. Vous voyez ? Habituellement, on demande pardon, au contraire, sur l'endroit où ce n'est pas de notre faute. C'est ça qui est extraordinaire. Et donc, si je vais rencontrer la miséricorde de Dieu pour cette haine réactionnelle, secondaire que j'ai eue. Vous voyez ? Contre mon père, contre ma mère. Et j'ai laissé grandir cette haine réactionnelle. J'ai réagi par une espèce d'agressivité, de haine. J'ai renforcé l'attitude de rejet. Donc, sixièmement, je demande. Je pardonne le premier non-amour de ma vie vis-à-vis de mon père et de ma mère. Hein, parce que je vous ai dit que le sentiment de culpabilité, c'est vraiment lié à la relation avec le père et la mère. Hein. Donc il faut que j'arrive à voir cette espèce de premier, tous ces actes intérieurs dans mon cœur où j'ai fait un acte de haine. La première fois que dans mon cœur d'enfant, j'ai dit, je m'excuse si ça vous choque, mais ça fait rien, j'ai dit à ma maman, mais conne. Vous voyez ? Dans mon cœur. On se rappelle de ça. Il faut demander pardon, ça, vous voyez ? Le premier non-amour. C'est là-dessus qu'il faut demander pardon. Et alors, du coup, je vais pouvoir donner un sens à cette souffrance qui est en moi. Et qui avait été à l'origine de ce sentiment de culpabilité. Je vais pouvoir lui donner un sens. Finalement, c'était pas si mauvais que ça, d'avoir été frappé au cœur. C'était très mauvais, ma réaction. Mais maintenant, je demande pardon et je reprends la souffrance à son origine, mais je lui donne un nouveau sens, une nouvelle signification, un nouveau dynamisme. Et j'apprends à la reprendre en main pour en profiter. Et dans la septième étape, je l'offre cette souffrance. J'ai enfin quelque chose à offrir. Il n'est pas trop tard pour offrir cette souffrance. Mais cette fois-ci, au lieu de l'offrir avec mon cœur, je l'offre avec l'angoisse. Ce qui lui donne, j'accepte de traverser l'angoisse, ce qui lui donne une poids d'amour tel, plus profond encore, puisque grâce à l'angoisse, l'offrande va profondément parce que l'angoisse atteint le point de vue spirituel. Et voilà donc que grâce à l'angoisse, je rentre dans le point de vue spirituel de la conscience de culpabilité. Donc voilà, maintenant, thérapie de la conscience de culpabilité. Ça, c'était la thérapie du sentiment de culpabilité. Quand vous faites une prière, thérapie maintenant de la conscience de culpabilité. Alors là, pour la conscience de culpabilité, il faut prier. C'est l'étape première, c'est la prière. Autant pour le sentiment de culpabilité, la prise de conscience de la blessure n'a pas besoin de prière. Il suffit de se rappeler, on s'en rappelle tous. Ça, c'est pas oublié, ça. Mais pour la conscience de culpabilité, il faut voir. Il faut vraiment l'aide de la prière. Il faut beaucoup prier. Il faut faire oraison. Et à un certain moment, il y a quelque chose qui va jaillir. Et je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quelquefois, d'un seul coup, vous vous rappelez d'un truc qui s'est passé. Un flash. Hein ? Ça vous arrive. Comme moi, j'espère. Je ne suis pas un monde... un truc bizarre, hein, de temps en temps, il y a un truc qui me vient, vraiment un acte qui spirituellement, ça me vient dans la prière. Vite, c'est le moment, voyez. Vite, c'est le moment, et quelquefois même en confession, voyez. Allez demander pardon pour un péché que j'ai commis il y a 30 ans, il y a 20 ans. Je sais pas, mais ça m'est revenu. Peut-être que j'avais jamais, au fond, peut-être que j'avais jamais vraiment avoué spirituellement. J'avais jamais demandé pardon, j'allais dire, bah, cordialement sur cette faute-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle me revient. C'est Jean de la Croix qui dit ça. Alors, donc, je prie beaucoup. Et quand jaillisse, donc, une faute, vraiment, une vraie faute, alors à ce moment-là, je vais cette fois-ci à nouveau rentrer dans l'aveu. Vous voyez bien que Dans le sentiment de culpabilité, je n'ai pas vraiment avoué. Dans le sentiment de culpabilité, dans la thérapie, voyez l'étape numéro 4 ou 5, j'ai crié, quoi. J'ai dit ma douleur, j'ai dit c'est injuste. Je me suis laissé consoler, j'ai accepté de pleurer. Mais je n'ai pas dit, hein. Tandis que ça veut dire c'était animal, psychologique. Mais c'est déjà pas mal. Mais il faut passer par là pour accepter d'offrir la souffrance et pouvoir rentrer dans l'aveu. Alors quand je rentre dans l'aveu, à ce moment-là, vous voyez, c'est spirituellement, c'est grâce à la prière, c'est grâce à l'oraison, c'est grâce presque à l'absolution aussi, que je vais pouvoir avouer. Mais la plupart du temps, il y a beaucoup de gens, il vaut mieux leur donner l'absolution avant l'aveu. Et pour nous, c'est comme ça. Aussi, pour tout le monde, c'est comme ça. Il y a des choses qu'on ne va pouvoir avouer qu'après une absolution. Pourquoi ? Parce qu'elles vont apparaître dans ce nouvel état de grâce. Vous voyez ? Et aussitôt qu'elles apparaissent, parce qu'elles vont, elles vont se révéler être des péchés beaucoup plus profonds que les autres. C'est pour ça qu'un chrétien, plus il avance, plus il voit des péchés beaucoup plus graves. Moins ce qu'on fait, plus les péchés qui lui semblent être ses péchés ne sont pas des péchés à lui, c'est des blessures qui lui ont été infligées. Et plus il avance, plus les péchés qu'il voit sont des péchés vraiment de plus en plus graves, effectivement. Graves, vous voyez ? Alors j'avoue, et c'est curieux parce que dans le conscience de culpabilité, ben, on n'est pas du tout déculpabilisé. Il ne s'agit pas de se déculpabiliser, comme Freud, Jung, Adler. Ça ne déculpabilise pas du tout, comme vous venez de le comprendre. Mais ça responsabilise. Je deviens responsable. Et apparaît du coup la grâce du repentir par l'aveu. Et du coup, cette grâce du repentir se repère en moi lorsque, justement, c'est tellement clair pour moi que, du coup, je n'aurai jamais ce sentiment, cette tendance à accuser les autres, à condamner les autres, à culpabiliser les autres. Et de la même manière, le repentir, je sentirai que Dieu ne me condamne pas, qu'il ne m'accuse pas, et que cette culpabilisation ne vient pas de Dieu. Il ne me culpabilise pas. Donc, il y a donc l'aveu qui ne déculpabilise pas, mais il y a le repentir qui me fait rentrer sous le regard de Dieu, qui, lui, ne me culpabilise pas. Il y a un petit peu les deux, si vous voulez. C'est pour ça que ça devient assez extraordinaire. Troisième étape, il faut persévérer. Pour la conscience de culpabilité, une fois que je suis responsable, il faut que je persévère. Il faut que je persévère dans cette attitude de don et de pardon. Et donc, il faut que je fasse des œuvres de miséricorde. Aller dans les hôpitaux, aller dans les prisons, essayer de parler avec son domicile fixe, avec quelqu'un qui souffre beaucoup, donner du temps. Être là, voyez, donner le meilleur de soi-même. Bon, des œuvres de miséricorde, s'engager à aider les souffrances d'autrui, voyez. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là, pour de manière à enraciner l'état de repentir, voyez, qui est en nous. Et alors dans un amour concret, parce que vous voyez bien que le sentiment de culpabilité il se loge ici, dans la partie de l'image de Dieu qui est là. Donc quelque part, il faut trouver, à travers l'aveu et le repentir, cette miséricorde de Dieu, ce don de Dieu. Et en même temps, il faut le concrétiser par des actes concrets, avec d'autres, et les souffrances concrètes du prochain. Et puis, bien sûr, à ce moment-là, c'est possible peut-être de rentrer dans l'oraison. Parce que dans l'oraison, si je vis des choses dans toutes les dimensions de ma personne, je peux me livrer à la personne du Christ, et le Christ peut se livrer à moi, et je peux faire l'oraison du Christ face à son Père, et rester 20 minutes comme ça, ensemble, avec lui. Et je peux commencer à lutter spirituellement, pour que ces 20 minutes ne soient qu'à lui. C'est ce qu'on appelle la lutte et le combat spirituel. Faire tout pour qu'il y ait 20 minutes pour lui seul. La quatrième étape de la thérapie de la conscience de culpabilité pour éviter la psychose, pour éviter la fusion relationnelle, la dépendance alienante, pour éviter la confusion intérieure, c'est l'offrande. être dans une attitude d'offrande. Je m'offre et j'offre tout. J'offre tout. Je m'offre moi-même. Je fais comme Jésus. Je m'offre entièrement. Je suis entièrement donné à l'Esprit Saint. Et du coup, j'accepte de traverser à nouveau l'angoisse. C'est pas un problème. Lorsque je suis dans cette dynamique de l'offrande, je peux tout traverser. Et je retraverse à nouveau en toutes sortes de problèmes, d'étapes, d'épreuves. Vous voyez ? J'ai plus peur. Mais j'accepte de retraverser toutes ces peurs du monde, ces peurs de mon prochain, ces angoisses de mon prochain, ces angoisses de moi-même. Voilà. Vous comprenez bien que la conscience de culpabilité est quelque chose qui est très dynamisant. C'est très positif la culpabilité en ce sens-là, parce que ça donne un élan si on le reçoit positivement, si on sort par l'aveu, par le repentir. Donc sur le plan du désir de se donner, c'est vraiment extraordinaire qu'il y ait eu ce sentiment de culpabilité, cette conscience de culpabilité. Donc pour supprimer l'inhibition, la conscience de culpabilité dynamisée par l'aveu, le repentir, les œuvres de miséricorde, la responsabilité, l'offrande, elle va, pour supprimer cette inhibition, et puis alors, et rentrer dans le combat spirituel, c'est absolument nécessaire qu'il y ait ça, une espèce de cadeau. Ah non, moi je ne peux pas faire prier, je ne peux pas faire raison, j'ai des angoisses. Et non, ça c'est justement, c'est que... Alors, ça fait sortir la dépression, vous voyez. Quelqu'un qui aurait une dépression, et bien simplement parce qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas avoué. Qu'il n'a pas voulu avouer. Ah, il l'avoue à lui-même, ça oui, ça c'est l'avoue à lui-même. Oui, et c'est l'avoue à lui-même. Alors ça fait l'angoisse. Et c'est ça la dépression, c'est une agressivité. Agressivité retournée contre soi-même. J'avoue pas, donc agressivité retournée contre soi-même. Vous l'avez là, vous voyez, et là. Sur le plan psychologique, et... Voilà pour le sentiment. Et sur le plan spirituel, voilà pour la conscience de culpabilité. Hein? C'est facile à comprendre, je crois. Hein? De toute façon, c'est des choses qui... Il vaut mieux en prendre conscience. De le regarder, vous savez, c'est commode. C'est bien de savoir, de faire un peu de philosophie, de savoir comment, comment ça marche, un homme, une femme. Parce que... Donc, vous comprenez bien que le sentiment de culpabilité... sera donc finalement au contraire un frein, notamment par rapport aux actes. C'est vrai, quand j'ai honte d'avoir fait ça, je ne le ferai plus. Quelquefois, quelque part, le sentiment de culpabilité est un frein. C'est l'aspect positif, le sentiment de culpabilité par rapport à... Voilà. Et la conscience de culpabilité, au contraire, c'est un dynamisme. C'est ça qu'il faut retenir. Voilà. Bon, ben écoutez, je crois qu'avec ça, nous avons clôturé le... PPP sur la culpabilité. Je crois qu'il ne faut pas en faire plus. Hein? Je tiens à vous rappeler quand même que ce que nous avons fait dans le PPP sur la conscience et le sentiment de culpabilité, c'est quelque chose qui relève du psychologique. C'est du psycho-spirituel. Vous voyez ? Un médecin, d'ailleurs c'est les médecins qui ont fait ces tableaux, hein. Un médecin, nous on a mis Fils, Saint-Esprit, Père, n'est-ce pas? Voilà, d'accord. Le médecin, lui, il ne sait pas ce qu'il y a là au cœur, là au milieu. Il est capable de repérer qu'il y a une innocence, il y a quelque chose de... Le moi autonome, hein, comme disait le médecin. Un roc, une solidité, une boule d'énergie au centre. Les médecins l'ont repéré. Donc, si vous voulez, ce n'est pas du christianisme de faire ça, voilà ce que je veux dire. Ce n'est pas la religion de faire. C'est de la philosophie. Ce n'est pas de la religion. C'est pour ça que c'est bien de compléter cette année, puisque vous avez des vacances, pour réécouter le mystère de la confession. Parce que dans le mystère de la confession, vous avez la manière de Jésus de regarder ses mécanismes. de les reprendre et de leur donner un dynamisme surnaturel et éternel pour glorifier le Père et permettre à l'Esprit Saint, dans la blessure du Fils, de dire face au Père qu'il est l'amour. Il faut que nous puissions être le lieu dans nos blessures, le lieu où se loge la colombe du Cantique des Cantiques, dans la paroi escarpée, au creux d'un rocher. Mon cœur est devenu dur et il est blessé. C'est le lieu où la colombe, mon épouse, vient ma colombe, dans les parois escarpées, va recevoir la personne même de l'Esprit-Saint qui va pouvoir enfin, puisqu'elle est, elle confesse ce qu'elle est, je confesse ce que je suis, je confesse que je ne suis rien du tout, je confesse mon péché, je donne ce que j'ai de plus moi-même, le péché que j'ai fait, le péché révèle ce que j'ai fait, à chaque fois si je confessais uniquement le bien que j'avais fait, eh bien, je confesserai simplement ce que Dieu fait à travers moi. Donc, je ne confesserai pas moi. Mais si je confesse un péché, je confesse ce que je suis. C'est moi qui me donne. Et en faisant ça, je permets à l'Esprit Saint, surnaturellement, glorieusement, éternellement, de se loger là et de confesser qu'il est l'amour dans cette blessure du cœur, dans ma blessure, dans mon péché. Grâce à ma confession, c'est ça le fruit du mystère de la confession, un fruit surnaturel. Lorsque j'ai reçu l'absolution, il faut que je comprenne que, du coup, je suis immaculisé et que je vis du mystère de la confession comme l'Immaculée vivait du mystère de la confession. Elle vivait du mystère de la confession parce que, dans son cœur blessé, ouvert, physiquement, psychologiquement, spirituellement, surnaturellement, ouvert, mort, si je puis dire, l'Esprit-Saint était là et il confesse qu'il est l'amour dans une blessure infligée par le péché dans le cœur de l'homme et de la femme. Sinon, dans la très sainte Trinité, l'Esprit-Saint ne confesse pas. Vous voyez, vous vous rappelez de ça? Je vais vous le rappeler parce que c'est important. Parce que ça nous donne le fruit ou, si vous voulez, la chance ou la gloire qui est la nôtre. La victoire de l'amour sur son contraire. C'est ça la gloire. La gloire, c'est quand l'amour est victorieux de tous les contraires, de tout le mal. Et à travers le mal. C'est ça, la gloire, c'est la victoire de l'amour sur tout. Dans la très sainte Trinité, Dieu... Bon, qui est partout, si vous voulez. Dieu a envie de confesser ce qu'il est. Dieu continuellement confesse ce qu'il est. Il confesse qu'il est Dieu. Quand Dieu confesse qu'il est Dieu, c'est le Père. Dieu confesse qu'il est Dieu. Donc quand Dieu confesse, c'est le Père. Et quand Dieu confesse qu'il est Dieu, eh bien, ce Dieu qu'il est dans la confession du Père, c'est le Fils.
Dieu confesse qu'il est Dieu, c'est le Fils.
Quand Dieu confesse qu'il est Dieu, Dieu ne cesse de confesser qu'il est Dieu. Il proclame à lui-même qu'il est Dieu, avant la création du monde. C'est une immense proclamation de lumière. Dieu confesse qu'il est Dieu. Quand Dieu confesse, c'est le Père, ce qu'il est. Et ce qu'il est, qu'est-ce qu'il confesse? Il confesse qu'il est Dieu. Et ce Dieu qu'il est, quand il confesse qu'il est Dieu, c'est le Fils. Dieu confesse qu'il est Dieu. Voilà le Père, voilà le Fils. Dieu confesse qu'il est Dieu. Et le Fils, le Verbe, du coup le Fils est le Verbe, le fruit de la confession du Père. Et du coup, dans le principe, c'est-à-dire dans la confession intime du Père à lui-même, le Verbe se trouve là. Et le Verbe, prologue de l'évangile de Saint Jean, chapitre 1, verset 1, et le Verbe, dans le principe et donc la confession de Dieu, à l'intime même de ce Dieu, et il est face à Dieu. Lui-même est face à Dieu. Et il lui montre ce qu'il est. Prostantea. Et donc le Fils aussi confesse au Père qu'il est la lumière de Dieu. Que Dieu est lumière. Il confesse ce qu'il est. Ce face-à-face montre que la première et la deuxième personne de la Très Sainte Trinité sont dans un état de confession éternelle, continuelle, incréée, personnelle. Puisque c'est ça qui les constitue comme personne. Puisqu'il y a... Bon, Dieu existe, mais c'est une existence personnelle. Et puis merde, il y a plusieurs personnes. C'est la confession qui fait que la personne est là en Dieu. Père, Fils, Verbe, principe, dans la lumière, né de la lumière. Alors, cette confession est une confession évidemment d'amour. C'est un don, un pardon, si vous voulez, un don parfait. C'est ça la miséricorde, la vraie miséricorde. Cette espèce de confession absolue d'amour, cette confession a un poids considérable, comme dit saint Thomas. Et ce poids considérable, c'est d'amour, c'est l'Esprit Saint. Et vous comprenez que l'Esprit Saint est ce poids. Mais dans la Très Sainte Trinité, il n'est pas dans une procession de lumière. Il ne confesse pas ce qu'il est. Il ne montre pas. C'est la lumière montrée. Il ne fait pas voir ce qu'il est. Jamais l'Esprit Saint ne fait voir ce qu'il est. Parce qu'il est dans une procession d'amour. C'est un poids d'amour. Et donc, c'est un poids. On appelle ça la procession. Deuxième procession de la Très Sainte Trinité. Il y a deux processions. Première procession dans l'ordre de la lumière. Deuxième procession dans l'ordre de l'amour. L'Esprit Saint procède du Père et du Fils. La rencontre de la confession du Père et de la confession du Fils fait un poids d'amour. C'est la deuxième procession. C'est une procession dans l'ordre de l'amour. Ce n'est pas une procession contemplative. C'est une procession d'amour. La procession du Saint-Esprit. Et donc l'Esprit Saint ne confesse pas ce qu'il est. S'il confessait ce qu'il est, ce serait une procession dans l'ordre de la lumière. Et c'est ça le mystère de l'Église, qui vit de l'angoisse du péché, de la honte, qui hérite des puissances de ténèbres et de la prévarication de Lucifer. C'est mon petit cœur de rien du tout d'enfant qui hérite de cette révolte angélique, qui hérite de toutes les consommations du péché dans la création, de toutes les dislocations, de toute l'anarchie qui en résulte, de toutes les putréfactions dans tous les degrés de vie qui sont dans l'univers. Mon petit cœur est blessé par ça, il est porteur de ça. Et à travers ça, à travers surtout, sentiment de culpabilité, à travers surtout le fait qu'il accueille dans l'aveu le Christ, le Verbe de Dieu, envoyé par le Père pour confesser l'Esprit Saint. Quand je vis de ça, à travers mon péché, sacramentellement parlant, à travers cette espèce de faute, cette blessure que j'ai, à travers cette réalité très concrète, incarnée et en même temps spirituelle de mon péché, il est possible pour le Christ de venir se loger en moi, que je sois transformé dans cette plaie vivante que Jésus est. Et que, du coup, de cette plaie vivante sorte l'Esprit Saint. C'est ce qui est dans l'Épître de Saint Jean. dans la blessure du cœur, cette plaie vivante, sort l'eau, sentiment de culpabilité, avec la prise de conscience pour un pardon donné, le sang, conscience de culpabilité, avec l'aveu, le repentir pour pouvoir s'offrir dans la grâce, et l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, au lieu de sortir de la confession du Père et du Fils, sort de la confession du pécheur dans le sacrement du Christ ressuscité d'entre les morts. De sorte qu'à travers mon péché, l'Esprit Saint peut confesser ce qu'il est. Il est dans cette blessure du cœur. Amour. Sans le péché, l'Esprit Saint ne pourrait pas rentrer dans le mystère de la confession à l'intérieur de la très sainte Trinité. Il y a quelque chose d'extraordinaire, là. De savoir que, j'allais dire, mon péché peut être le lieu et l'occasion de l'Esprit Saint de pouvoir confesser qu'il est l'amour dans la blessure du cœur de Jésus ressuscité. C'est pour ça que l'Esprit Saint nous remercie. Quand on a bien voulu avouer et offrir et nous offrir nous-mêmes dans nos fautes au Christ ressuscité d'entre les morts à travers le sacrement et le mystère de la confession. Et après l'absolution, je sais que c'est ça qui se fait. Cette introduction du mystère de la confession du Saint-Esprit dans la blessure du cœur. Et ça, c'est la spiritualité de l'Immaculée Conception. C'est ce qu'on appelle le mystère de la compassion. Voilà. Nous n'avons pas fait cette année du tout cette dimension surnaturelle. Vous voyez bien, et chrétienne, du sentiment de culpabilité. Je vous en mets juste quelques petites traces, si vous voulez, là, dans les 10 dernières minutes du PPP. Mais c'est pour vous donner envie de méditer, de découvrir, pour pouvoir le réaliser, cette vocation extraordinaire que nous avons à travers ce sentiment de culpabilité, cette souffrance que nous avons d'être rien du tout, d'être des pauvres types, d'avoir fait des péchés. Et il faut absolument vivre ça. C'est ça notre vocation. Voilà. Bon, eh bien, en tout cas, je vous remercie pour toute... votre patience, avoir écouté. N'oubliez pas que puisque, tu peux me dire, nous avons ici un certain nombre de cassettes. Il y a tout un travail qui a été fait, je vais vous signaler, sur ce qui se fait au point de vue... voilà, maintenant on est mis sur ordinateur. Alors, il y a tout un ensemble de voilà, vous voyez, il faudrait qu'on affiche ça quelque part. Il y a tout un ensemble de séries de cassettes qui sont prêtes. Lorsque... Merci. 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 Alors, lorsque c'est en bleu, ça veut dire que c'est le samedi, donc c'est de la philosophie. Lorsque c'est en rouge, ça veut dire que c'est le dimanche, donc c'est la mystique biblique. Cette année, c'était Saint-Joseph, à travers la Bible. Lorsque c'est le lundi... psycho-spirituel, c'est en vert. Lorsque c'est en violet, ce sont les homélies des messes qui se font ici. Et lorsque c'est en orange, ce sont les retraites qui sont faites. Le mystère de la confession, par exemple. Le mystère du sacerdoce, cette année. Voilà. Donc, vous pouvez regarder si vous pensez que vous pouvez aider quelqu'un en lui faisant découvrir tel ou tel mystère, tel ou tel aspect. Vous avez donc ici les séries. Vous avez le lexique... pour chaque cassette, le contenu, pour chaque cassette, que ce soit, c'est pas tout à fait fini, mais en tout cas, c'est en train d'être mis en place. En tout cas, vous pourrez remercier de ma part et de la vôtre, le cher Philippe et la chère Daniel, vous voyez qu'ils ne sont pas là aujourd'hui, j'en profite, pour ce travail considérable qu'ils ont fait. Parce que c'est quand même c'est un travail considérable. Ils sont très malheureux, ils sont parce qu'ils sont sans travail, etc. Ils sont très, très malheureux. Mais du coup, ils se donnent à fond pour essayer de nous aider. Donc, on vous remerciez-les. Accueillez-les. Ils sont nouveaux dans le groupe et c'est eux qui font ce travail. Oui, on devrait avoir honte. Et rentrer dans la dynamique du sentiment de culpabilité. Voilà. Donc, n'hésitez pas... continuez à vous nourrir pendant cet été, à travailler ces questions-là. L'année prochaine, nous rentrons. Soyez sympa, il ne me reste plus que 30 secondes. Nous rentrons l'année prochaine sur une autre dynamique qui est celle, donc cette fois-ci, ça y est, on en est sûr, c'est la mémoire, la guérison des souvenirs et la guérison de la mémoire. Donc, la guérison, vous sentez bien ici que je viens de vous dire que ça ne déculpabilise pas ce que nous faisons ici. Vous rentrez dans une dynamique d'offrande et de pardon, mais il n'y a pas vraiment la guérison des souvenirs. Donc, l'année prochaine, c'est la guérison des souvenirs pour permettre justement au cœur d'être entièrement guéri, d'une part, et à la dynamique, j'allais dire, de la confession, surnaturellement, de ressembler de plus en plus à celle de la Vierge Marie, qui, elle, vit ça dans l'Immaculée Conception. Voilà. Donc, c'est évidemment la partie principale du PPP, c'est ce qu'on fera l'année prochaine.